Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur de se partager le popcorn. Je suis Louis Laramé et je suis entouré, comme d'habitude, de mes habituels collaborateurs, Jim Boulin.
Hello!
Et Mélina Lopez-Nado.
Bonjour!
Comment allez-vous, chers amis?
Ah, écoute, il fait beau, c'est les vacances, les jeunes ont fini l'école.
J'ai chaud. Ouais, non, je sais pas. Je suis pas convaincu encore de ces choses-là. Donc, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, Jim?
Écoute, à la veille de la fête nationale, pour ne pas dire la Saint-Jean, j'ai quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ça. En fait, je vais parler de cinéma international. L'Arabie Saoudite, pour laquelle le nouveau prince héritier applique une nouvelle politique d'ouverture, ou d'ouverture d'esprit, il faudrait voir, autorise la projection d'un film interdit pendant 40 ans après sa sortie.
T'as peur, donne-moi une seconde. Est-ce que c'est 120 jours de Sodome?
Non, celui-là sera jamais autorisé.
Est-ce que c'est toujours pas autorisé en France?
Non, mais ça a un lien avec Mahomet. En fait, le film Le Message, qui est sur la vie du prophète Mahomet, film réalisé par un Américain d'origine syrienne, est sorti en 1976. Et selon le distributeur du film, Front Row Entertainment, le film a une grande valeur historique et culturelle. Et comme l'islam interdit toute représentation de la figure ou du personnage de Mahomet, ben, le réalisateur avait utilisé une caméra subjective ou ce qu'on appelle en anglais le point of view, pour éviter de montrer directement Mahomet. J'ai justement un extrait de la bande-annonce du film. Donc, ce qu'on entend, c'est la bande-annonce du film Le Message, qui est sur la vie du prophète Mahomet. Et voilà, le film va être projeté aux Émirats Arabes Unis, au Maroc et en Libye, en plus de l'Arabie Saoudite.
Wow! Vraiment, la bande-annonce sonne très, très épique.
Ça sonne... Ça, oui.
Oui.
Exactement.
Oui. Mélina, qu'est-ce que tu as fait cette semaine?
J'ai fait plusieurs choses, mais aujourd'hui, ma nouvelle concerne un film qui va sortir en septembre. Le film s'appelle « A Simple Favor ». Et ça met en vedette Anna Kendrick et Blake Lively. Et en fait, la deuxième bande-annonce vient de sortir et j'avais envie de vous faire entendre ça pour une raison bien particulière que vous allez découvrir tout de suite.
I met Emily a few weeks ago. She is this wonderful, elegant person.
Je t'ai vu tracer le long du paysage. Une ligne des aimés qui détruit son langage. Et quand tu chantais plus fort dans ton silence, je voyais les larmes couler toujours à contre sens.
Stephanie, I need just a simple favor.
Anything.
Et si la terre est sombre, et si la pluie te noie, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble.
Absolument magnifique. Et du très beau... C'est Cœur de pirate,
oui. C'est Cœur de pirate, oui. Donc, une très belle vitrine pour Cœur de pirate, quand même, sa chanson dans la bande-annonce d'une production hollywoodienne pour une artiste bien de chez nous. C'est le fun.
Ça fait différent aussi de Céline Dion qui jouait dans Deadpool 2.
Ouais, ou dans Titanic.
Ou dans Titanic, ouais.
Et c'est quoi, une chanson en français aussi, ça. C'est
oui,
ça
en plus.
Oui, c'est quand même très cool. Moi, je vais vraiment plus local que ça pour mes nouvelles. Gars, j'ai pas voulu aller à l'autre bout du monde. Moi, la Ligue d'improvisation musicale de Sherbrooke avait sa première édition au Boc et Bière cette semaine, ou la semaine passée, en tout cas, le dimanche. Et c'est absolument extraordinaire. C'est deux équipes qui s'affrontent dans différents thèmes, différentes durées. Un peu similaire à un match d'improvisation traditionnel, mais c'est 4, 5, 6 personnes sur un stage avec des instruments. C'était vraiment bon. La prochaine édition se tient demain, dimanche, à 20h. Au Boc et Bière, je le recommande.
Eh bien!
Chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat. Et chat perché, chat perché, chat perché. Si c'est toi le chat, c'est moi le rat. ah, si c'est toi le rat, c'est moi le chat, ah, 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 voilà, comme ça, chat, chat, moustache, chat, chat.
Mais là, cette semaine, t'as été voir un film à propos de premier baiser.
Non, pas du tout.
Un film à propos de graffiti.
Bon, alors Louis, semble-t-il que tu es une personne particulière, donc j'ai été voir un film à propos d'un jeu de tag.
Ben c'est ça, un tag, c'est un graffiti.
Ah! Oui, okay. D'accord. Bon.
Bien essayé.
Quitter.
Bravo.
Oui, tu peux quitter le studio.
Oui, oui. Non, c'est un film de tag. En fait, c'est une comédie américaine qui a été réalisée par Jeff Tomsic. C'est son début à la réalisation d'un film. Et qui a été écrite par Rob McCritick et Mark Stalin. Donc, on va aller écouter tout de suite la bande-annonce et ensuite, on va en discuter.
Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici?
On est un groupe d'amis qui joue la même partie de tag depuis 30 ans.
Quoi?
Chaque année, pendant tout le mois de mai, on joue à la tag.
Ah, les couilles, ouais, ça compte pas!
On peut être tagué n'importe où, n'importe quand.
Félicitations, mon vieux, c'est à toi!
Courage, Anna!
Notre ami Jerry, c'est le meilleur de tous les temps, et il souhaite prendre sa retraite.
Jamais tagué, sans me vanter. Qui a la tag?
Can't touch it.
Cette année, on tag Jerry.
Can't touch it.
Synchronisez vos montres.
Je sais pas comment faire ça.
Je porte jamais de montre.
Le temps est relatif.
C'est très intéressant comme film. D'abord, je vais vous dire, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un bon divertissement. Et c'est un scénario très original. Et il faut savoir que c'est basé sur une histoire vraie dont une journaliste a fait un article là-dessus dans le Wall Street Journal en 2013. Et quelqu'un a lu ça et a décidé d'adapter ça en film. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du film, on voit des extraits parce que les hommes qui ont fait ça pour de vrai se sont filmés pendant qu'ils font... Parce que les coups pour taguer quelqu'un, ça s'en va dans des extrêmes un peu inimaginables. C'est très drôle. Et on voit les vrais qui font leurs vrais coups, dont certains ont été repris dans le film. Donc, c'est très drôle parce que durant le film, quand on voit ça, on se dit « Bon, mais c'est impossible qu'ils se rendent à de tels extraits. » On parle d'aller très, très loin pour réussir à taguer quelqu'un.
Ben, donc, je sais que dans la bande-annonce, entre autres, il y a une scène dans un mariage, dans une rencontre des alcooliques anonymes.
Oui.
C'est assez
comme...
Il y en a un aussi qui, moi, je trouve hallucinant.
Cimetière,
qui était... Non, lors de la naissance.
Ah, oui. Oui. Félicitations. Tag.
Ouais, c'est ça, c'est comme... Félicitations, lâche pas ma belle, tag, puis il s'en va comme super cute. Je dois admettre par contre que je suis un peu fâché quand ce film-là, je t'arrête une seconde, Mélina, parce que la campagne de pub était sans cesse toujours présente. J'ai vu plus d'annonces pour ce film-là que j'en ai vu pour Le Monde Jurassique.
Mais
tout le temps.
La première bande-annonce, moi j'avais trouvé que ce film-là avait l'air absolument ridicule, ça me tentait même pas d'aller le voir. Quand la deuxième bande-annonce est sortie, c'est là que j'ai fait « Ah, ok, ça peut être drôle », et effectivement... C'est très drôle. C'est un groupe de 5 hommes qui se retrouvent chaque année pour jouer à ça et ils sont interprétés par Ed Helms, Jake Johnson, Hannibal Buress, John Hamm et Jeremy Renner. Et fait intéressant que j'ai appris en faisant ma recherche pour cette chronique-là, Jeremy Renner s'est fracturé le bras après seulement quelques jours de tournage et pour continuer le tournage, il lui recouvrait les bras de verre pour les remplacer ensuite en effet visuel. Donc, je sais qu'on utilise souvent des écrans verts, en fait, en cinéma.
Mais c'est une sale job, pareil.
Mais
c'est
effectivement...
Pour ça, là.
Mais ça sonne comme Mark Hamill, auquel on a changé la moustache en post-production quand il a joué Superman dans, dans Batman v Superman, parce que lors des reshoots, il faisait un deuxième film où il devait porter la moustache.
Intéressant. Qu'ils lui ont teint la moustache.
Ouais, non, c'était vraiment pas si bon que ça.
Mais c'est... Donc, le film, c'est très drôle. Il y a, au niveau de la réalisation, il y a des trucs intéressants qui se passent, des ralentis à certains instants. Il y a, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un des 5 gars qui n'a jamais été tagué. Donc, il y a un peu un record parfait. Et il va dans des façons extrêmes pour ne pas se faire taguer. Et c'est ça qui rend ça particulièrement... très drôle. Donc, le gars est propriétaire d'un centre de conditionnement physique et a appris les arts martiaux pour réussir à ne pas se faire toucher. Donc, ça va dans des extrêmes. C'est très drôle et ils disent que ce gars-là est très rapide. Donc, à chaque fois qu'un de ses amis vient pour le taguer, on entend comme la narration avec une voix off dans sa tête et on voit les gestes au ralenti. Bon, il va faire ça, il va faire ça. Donc, ça rend ça très drôle. Plusieurs ralentis aussi dans d'autres moments dans les jeux, dans les parties de tag. C'est pas du tout une comédie romantique. Jim me dit au début, ah, ça a l'air d'être une comédie romantique, il y a un mariage. pas du tout. On est vraiment dans la comédie, très drôle et très original comme sujet. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. La salle était presque pleine à la maison du cinéma, donc c'était le fun, ça riait beaucoup. Et bref, c'est un film que je vous conseille. C'est un divertissement facile, le fun à voir, ça détend, ça fait rire. Et c'est un scénario, je voudrais, qui est quand même original parce qu'on n'a jamais vu de tel et rien de tel. Et de voir que c'est basé sur une histoire vraie, ça rend ça encore plus drôle parce qu'ils prennent ça très à cœur, leur partie de tag.
Bien.
Ça sonne vraiment intéressant. Merci beaucoup, Mélina.
Oui, mais donc je donne un 7.5 sur 10 à ce film-là. Je recommande à tous d'aller le voir. C'est franchement très drôle et ça passe. Ça, c'est un cinéma de divertissement.
Ça passe le Mélina test.
Exactement.
Excellent. Merci beaucoup. Moi, j'ai été voir un film vraiment sombre cette semaine, vraiment dramatiquement sombre cette semaine. Je vais juste vous lire la description, puis après ça, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Vous allez comprendre qu'est-ce que j'essaie de dire ici. Comme le gouvernement fait interdire les super-héros, la famille part est forcée de vivre dans l'anonymat. Un jour, un président d'entreprise leur offre la chance de prouver au monde que les super-héros sont utiles et nécessaires. Et la Sophie deviendra la nouvelle porte-parole de cette campagne et se lancera aux trousses d'un vilain qu'on appelle l'hypnotiseur. Pendant qu'Hélène brille sous les projecteurs, Bob, qui rêve d'enfiler à nouveau son costume de Monsieur Incroyable, doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Il doit gérer les devoirs de mathématiques, les crises d'adolescence et les nouveaux super-pouvoirs impressionnants du bébé Jack-Jack. Donc,
je te reconnais dans ce film-là.
Moi aussi, je me reconnaissais vraiment dans cette description de film-là. Je suis allé voir un film pour enfants. Je suis allé voir Les Incroyables 2, qui est la suite 14 ans plus tard des Incroyables, le film qui avait été un des meilleurs film de super-héros et à ce jour la meilleure représentation qu'on a jamais vue des Fantastic Four parce que
ouais.
Non
pourquoi pas
non définitivement je pense que peu importe ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la vraie dans la vraie vie, ce film d'animation pour enfants est une des meilleures versions. C'est Pixar, donc évidemment que j'ai été triste, j'ai été heureux, j'ai ri, je me suis posé des questions sur la réalité humaine. Mais avant d'aller plus loin, on va aller écouter la bande-annonce.
Quoi? C'est pas vrai, il y a que des légumes là-dedans. Qui c'est qui a commandé des légumes?
C'est moi.
Bon, alors, on en parle ou on fait comme si de rien n'était?
De quoi?
Du sujet tabou, quoi d'autre?
Quel sujet tabou?
Le nouveau travail de maman.
Il est grand temps de réparer nos erreurs. Aidez-moi à ramener les super-héros dans la lumière. Nous devons changer l'opinion du public à l'égard des super-héros. Et je crois qu'Elastophie est notre meilleur atout.
Meilleur que moi?
Donc...
La bande-annonce avait l'air très drôle quand je l'ai vu au cinéma, là. Excellent.
Écoute, c'est... la bande-annonce représente très bien ce que c'est. C'est-à-dire que c'est cette espèce de combinaison un peu drôle de leur vie de famille qui est... C'est une famille américaine traditionnelle, c'est-à-dire que c'est le père, la mère qui s'aiment et qui ont des petits conflits ensemble, qui sont capables de passer par-dessus au travers de la communication.
Leur
jeune adolescente qui a vu sa première histoire d'amour. Leur jeune fils qui a de la misère à l'école parce que les mathématiques, c'est pas son fort. Et leur tout jeune bébé qui est encore à faire ses premiers pas.
Monsieur Jack-Jack.
Monsieur Jack-Jack d'ailleurs qui occupe un rôle de plus en plus important dans la série et qui cette fois-ci, on découvre ses multiples pouvoirs, super-pouvoirs. Ça semble être destiné à être un des plus grands super-héros de ce jour, mais saura-t-il contrôler ses pouvoirs?
Un clin d'œil à Anakin dans cette histoire.
Un clin d'œil à Harry Potter dans cette histoire. Quand il fait enlever la vitre du serpent, il ne savait pas contrôler ses pouvoirs à ce moment-là.
Donc ça, on retrouve également les coupables habituels, c'est-à-dire que Frozone est là, c'est-à-dire que Monsieur Incroyable, Elastogirl. Mais également, on a une nouvelle crew de Sparrow. Donc, dans le fond, on commence à la fin des événements du dernier film. C'est-à-dire que les Incroyables sont sortis, ont réussi à arrêter le dernier vilain. Au moment où le film terminait, le Undercrawler commençait à sortir et menaçait de voler une banque. Monsieur Incroyable s'est donc mis à courir et a arrêté The Undercrawler. Mais ça n'a pas été aussi bien que prévu. Il y a eu quand même beaucoup de dégâts autour. Et là, ils doivent se retrouver encore une fois à se cacher. Et cette fois-ci, ils n'auront plus l'aide du gouvernement parce que le gouvernement a décidé de couper l'argent qui allait au programme de remplacement des super-héros. Donc, on les retrouve un peu défaits dans un motel pas très glorieux à se demander comment est-ce qu'ils vont pouvoir survivre, qui va aller prendre un travail pendant que l'autre s'occupe des enfants, comment ils vont gérer ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils se font offrir un travail par un président de compagnie qui leur demande, dans le fond, de briser la loi pour effectuer un travail de lobbyisme pour les récupérer. Pendant les premiers événements, il y a le Mindslaver, le screenslaver, l'hypnotiseur, qui se met de la partie et qui commence à prendre le contrôle de certaines personnes et qui cause beaucoup de problèmes. On rencontre une nouvelle crew de super-héros qui commence à apparaître. Void, entre autres, est vraiment très drôle avec ses multiples portails. Le bricoleur reflux, qui aussi ne donne pas sa place.
Ouais.
Ouais, son tagline, c'est problème de santé ou super-pouvoir, à vous de décider. ce qui, à mon humble avis, après avoir vu, par contre, les effets de ses pouvoirs, définitivement, super-pouvoir dans son cas, c'est même pas une question. Mais oui, donc, un film vraiment extraordinaire, beaucoup de cœur. J'étais là, il y avait énormément d'enfants, tout le monde a trouvé ça très drôle, il y avait beaucoup de bonnes blagues. Il y avait... Je pense que ça, c'est peut-être pas au même niveau que le premier. Le premier avait l'avantage de partir une nouvelle franchise, de commencer une nouvelle ligne, de nous enlier vers quelque chose de différent, puis de partir avec rien d'autre dans l'univers. Mais ça reste vraiment intéressant, ça reste vraiment bon. C'est sûr qu'il y a quelques clins d'œil, wink wink, cette fois-ci aux Avengers. Mm-hmm. Il y a quelques scènes tirées de Batman v Superman qui sont aussi très présentes. On voit des moments, quelques clins d'œil pour les nerds de super-héros à The Watchmen, la bande dessinée de Alan Moore qui a fait énormément de vagues quand c'est sorti comme étant une espèce de pastiche parodie, mais en même temps, réflexion très profonde sur les super-héros. Quelques moments où on fait « Ouh, j'y crois », entre autres avec un des nouveaux super-héros qui est directement inspiré visuellement d'un des super-héros de Watchmen.
Puis ta note, ça serait quoi?
Ce serait un solide 8.5 sur 10. Oh, un excellent divertissement, une bonne manière de reposer les enfants une journée trop chaude d'été et également une bonne manière de se taper les cuisses avec des chums.
Et donc, la suite dans 14 ans, j'imagine?
C'est pas clair. Alan Bird a pas... D'ailleurs, c'est ça, j'ai oublié de mentionner... Bon, j'ai encore oublié de mentionner des affaires importantes. C'est réalisé par Brad Bird. Brad Bird, qu'on connaît également parce qu'il a réalisé Le Géant de Fer, Les Incroyables premiers, Ratatouille, que j'ai également beaucoup aimé, Mission Impossible, Le Protocole Fantôme, qui était excellent, malgré peu importe ce que va dire Jim dans les prochaines secondes.
Je dirais rien.
Et également Le Monde de Demain, Tomorrowland, même type qui a réalisé ça. Donc, vraiment un homme qui réalise des films pleins de sentiments et de plaisir. Donc, je recommande à tous Les Incroyables 2. Ça vaut définitivement la peine.
Mais dis-moi, Louis, pour les enfants qui n'ont pas vu le premier, est-ce qu'ils s'y retrouvent quand même ou il y a beaucoup de références? Ou même pour les adultes qui n'auraient pas vu le premier?
Comme toi, mettons.
Ben, mettons, je recommande normalement le premier de toute façon parce qu'il est excellent, mais c'est pas nécessaire.
Okay.
Les gens sont expliqués. C'est sûr que il y a quelques trucs qu'il va falloir que tu vois. Tu sais, il y a peut-être quelques trucs qui vont peut-être arriver vite. C'est-à-dire, entre autres, les super-pouvoirs de la famille incroyable. Mm. C'est-à-dire que, Elastophie, j'espère que tu ne te surprendras pas d'apprendre qu'elle s'étire vraiment beaucoup. Monsieur Incroyable est fort du Calvin.
Le fils, il semble pouvoir se déplacer très rapidement.
Et la jeune fille, c'est jamais trop classe. Elle peut se rendre invisible, créer des sphères de protection, puis... Bref, c'est beaucoup de mauve. Son pouvoir, c'est pas clair encore dans ma tête exactement qu'est-ce que c'est. Il y a de la télékinésie d'impliquer. Et Jack-Jack, c'est juste « Wouh! Tout en même temps! »
Parce qu'il ne s'est pas contrôlé encore.
Ben, également, on plusieurs références au fait que c'est la première fois en plusieurs années qu'on voit un enfant avec autant de potentiel.
On place clairement un film subséquent.
Potentiellement un spin-off Jack-Jack film. Également, moi, je tiens à souligner qu'il y a un shout-out à mon personnage favori de la première série, qui est Edna, qui est la femme allemande, qui est clairement une référence au film des frères Coen de Big Lebowski.
Ah oui?
Oh oui! et qui est encore là et qui dessine encore des costumes et qui est vraiment juste magnifique. J'adore cette petite femme d'origine allemande qui a beaucoup plus de talent que de cœur. Donc, pour tout le monde, Les Incroyables 2, c'est encore en salle en ce moment.
Merci, Louis.
Et puis, si vous allez voir la version originale, Frozen, c'est Samuel L. Jackson.
Ah ouais?
Et ça sonne.
Ben oui, on s'habille sexy avec des jeans bien serrés. C'est un nouveau look que t'as jamais vu.
C'est le moment des sorties cinéma.
J'suis sorti avec...
La semaine prochaine, on a une semaine vraiment occupée en termes de films, ou tout le moins des films que j'ai envie d'aller voir. Entre autres, La Chute de l'Empire américain. On se rappelle tous du déclin, on a tous entendu parler... c'est quoi l'autre d'après?
Les invasions barbares.
Les invasions barbares. Bref, c'est la suite réalisée par Denis Arcand, ça met en vedette Alexandre Landry, Louis Morissette, Maxime Rouen, Paul Doucet, Marie-Pierre Morin, Florence Lompré, Ian Englund, Eddie King, Pierre Curzi et Rémi Girard.
Traditionnel Rémi Girard. Hein?
Traditionnel Rémi Girard. La scène du massage me hante encore à ce jour. Pierre-Paul Dubé, 35 ans, possède un doctorat en philosophie de McGill parce que ça prend quelqu'un de trop éduqué dans ces films-là. Il est célibataire et solitaire. Il travaille comme coursier pour les services de livraison Can-Am, puisque le salaire de ceux-ci est plus élevé que celui d'un chargé de cours de philo. Il vit à Rosemont dans un deuxième étage débordant de livres. En allant livrer un colis dans une pseudo-boutique de vêtements pour femmes, il tombe sur une scène de vol à main armée qui a mal tourné. Deux morts. Il se retrouve devant deux sacs de sport remplis de billets de banque. Plusieurs millions. Pierre-Paul est ainsi confronté à un dilemme. Partir avec les sacs d'argent ou pas? J'ai tellement hâte. Ça me fait des émotions juste que d'y penser.
Oui, j'ai hâte aussi.
Hearts Beat Loud, drame musical américain réalisé par Brett Haley, mettant en vedette Nick Offerman, Kiersey Clemons, Ted Danson et Tony Collette. Au cours de son dernier été avant de quitter le nid familial pour se rendre à l'université, Sam écrit des chansons avec son père, Frank. Je recommande la bande-annonce, ça a l'air vraiment drôle. L'Oncle Drew, version originale de l'Oncle... version française de Uncle Drew, comédie américaine réalisée par Charles Stone, le troisième, mettant en vedette Tiffany Haddish, Nick Kroll, Shaquille O'Neal et Erika Ash. Une équipe constituée des meilleurs joueurs de basket se réunit à la cour Rucker de Harlem. À considérer, I guess.
On verra.
Plongée, drame français réalisé par Mélanie Laurent, mettant en vedette Gilles Lelouch, Maria Valverde, Albert Delpy, Ibrahim Ahmed, Marie Desnarnaud et Noémie Merlant. C'est l'histoire d'un amour total entre César et Paz. Paz, photographe espagnol, nourrit une soif de rencontre, d'expérience et de voyage. Alors que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l'inverse s'extraire du tumulte du monde. Paz est enceinte. Cette perspective, l'angoisse, l'étouffe. Elle semble s'éloigner chaque jour un peu plus de César, comme obsédée par quelque chose qui lui échappe, jusqu'au jour où elle disparaît, laissant son enfant et César sans véritable explication. Bon, l'autre que j'ai vraiment envie de voir, c'est Sicario, le jour du soldat, la version française de Sicario, Day of the Soldado.
La film bande d'action. Annonce a l'air écœurante.
Mais surtout, bon, cette fois-ci, c'est réalisé par Stefano Solima, donc Denis Villeneuve n'est pas impliqué dans le projet directement. Film d'action américain, le premier était excellent. C'est un film d'action introspectif qui mettait en vedette des agents de la CIA, des agents d'agence qu'on connaissait pas vraiment, Benicio del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Isabella Moner, Jeffrey Donovan et Matthew Modine prennent la vedette cette fois-ci, quelques années après les événements de Sicario. La lutte contre le trafic de drogue est toujours aussi âpre sur la frontière et les cartels sont plus puissants que jamais. Matt et Alejandro sont de nouveau dépêchés sur place pour retrouver Carlos Reyes, un ponte des cartels qui s'est lancé dans d'autres affaires lucratives. Il traite désormais avec les terroristes. Ce qui aurait dû être une opération coup de poing rondement menée se révèle en fait un sombre et tortueux combat orchestré dans l'ombre par la CIA. Je lis ça et, chers auditeurs, auditrices, le poil de bras me lève sur les bras. Je suis énervé, ça ne se peut plus. Je suis un jeune homme à la vue de 3-4 tankas. J'ai envie de voir ce film-là maintenant.
Bon, bref, faut t'attendre 2 semaines.
Mais bref, ce serait ça pour les sorties cinéma. Donc, pour cette deuxième moitié d'épisode, nous allons parler du film « Quand l'amour se creuse un trou ». Mais avant cela, Jim va nous ôter un doute, nous toucher le doute.
Oui, en fait, ou non, hein? Mais oui, je vais vous parler du film « Ôtez-moi d'un doute », une production franco-belge, co-écrite et réalisée par Karine Tardieu, Karine avec un C. C'est son deuxième long-métrage à Karine Tardieu après « Du vent dans les mollets ». On y retrouve principalement François Damiens et nul autre que la délicieuse Cécile de France.
Mm.
Oui, tout à fait.
Oui.
Je suis 100% d'accord avec ton On écoute la bande-annonce.
Monsieur Gourmelon, les analyses que nous avons effectuées révèlent que vous n'avez aucun gène commun avec Bastien Gourmelon.
Je n'ai aucun gène commun avec mon père.
Bastien Gourmelon n'est pas votre père biologique. Je suis désolé.
Tu comptes en parler à papy ? T'es pas curieux de savoir qui est ton père ?
J'en ai déjà un, ça me suffit.
Eh ben, quand je pense comment tu m'as fait chier pour que je retrouve le sien.
T'as un rencard ?
Bonsoir.
Mais c'est quoi ton métier ?
Moi, je suis démineur.
Démineur de quoi ?
Démineur de bombes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ?
Ben, on fait ce qui se fait quand un homme emmène une femme dîner au restaurant. La base, quoi, on fait la base !
Je suis désolé.
Alors, Louis te fait une drôle de face quand t'as entendu le mot « gourmelon » qui ressemble à « gros melon ». Mais non, c'est bien « gourmelon ». Voilà, donc le film s'appelle « Au témoin d'un doute ». L'histoire est assez simple. François Damiens incarne Erwan Gourmelon, un spécialiste du déminage. Sa fille est enceinte et, à son grand désarroi, le père de l'enfant est inconnu, au début du film du moins. Alors qu'il passe des tests pour s'assurer qu'il n'a pas transmis à sa fille, et donc à l'enfant, un gène d'une maladie que possède son propre père, Erwan apprend qu'en fait, il n'est lui-même pas le fils biologique de son propre père. Dans sa quête pour trouver son vrai père, il tombe amoureux d'une jeune femme, Cécile de France, qui pourrait bien être sa demi-sœur. Alors, le concept est vraiment très intéressant. Mm-hmm. J'avoue que la bande-annonce ne le rend pas vraiment, tristement. Elle essaye, mais ça ne marche pas trop. Mais le film, bon, c'est un film un peu sur la paternité dans un sens, au sens très large, mais surtout sur la reconnaissance biologique, sur le fait de vivre sans savoir ce qui nous définit. Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que c'est notre biologie? Est-ce que c'est nos vrais parents? Le film aborde un peu aussi ce que c'est que de vieillir, parce qu'évidemment, ses pères, pour ne pas dire son père, ses pères sont plutôt âgés. Et bon, un drame léger, définitivement moins lourd que les derniers drames que j'ai vus au cinéma et que Milena a vus au cinéma. Confidence, j'ai quand même souri, parfois rigolé durant le film. Alors, très, 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 très léger.
Ce qui arrive très rarement dans la vie, Jim ne sourit
ben,
pas.
Dans les drames français, c'est assez rare que je ris. Mais là, j'avoue que celui-là, il frôle la comédie dramatique, mais il n'est pas assez drôle pour pouvoir avoir cette catégorie-là. Donc, définitivement, un film très accessible. Contrairement à Normandie nue que j'ai critiqué la semaine dernière, souvenez-vous, hein? Il y a beaucoup moins de personnages dans le film. Donc, ce qui fait qu'on reste assez proche de ce que vit le personnage d'Erwan. On a le temps de sentir ses émotions, même s'il est quand même assez réservé comme personnage. Cécile de France est toujours extraordinaire dans son rôle. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film-là parce que il n'y a pas vraiment d'erreur dans le film, ni au niveau de la réalisation, ni au niveau scénaristique. C'est peut-être un peu ça son défaut. J'aurais peut-être aimé qu'il prenne un petit peu plus de risques, le film. C'est un film prudent, là, vraiment prudent, sans vraiment d'ambition. Il ne réinvente pas du tout la réalisation. L'histoire, le concept est vraiment bien, mais j'aurais aimé ça que ça aille un petit peu plus loin, peut-être avec le couple incestueux, si vous pardonnez la façon de le dire. Juste pour augmenter les enchères à la fin du film, ça aurait vraiment rajouté quelque chose d'intéressant. Je donne à Ôtez-moi d'un doute 8 sur 10. C'est un bon moment passé au cinéma, ça fait sourire, mais un jour ou deux après, ça disparaît de notre mémoire parce qu'un film avec France Castel, beaucoup plus ambitieux, vient écraser ce lointain souvenir. Donc 8 sur 10.
8 sur 10. Excellent, merci beaucoup, Jim.
De rien.
Cette semaine, un autre film québécois a grassé nos écrans. Cette fois-ci, c'est un film qui met en vedette France Castel, Robert Neller, Patrice Robitaille, Julie Breton, Rosemary Perrault et Thomas Beaudoin. C'est un film qui se nomme « Quand l'amour se creuse un trou ». Le résumé, Montréal, juin 1995. Miron est un adolescent délinquant de 17 ans qui passe son temps à faire du skateboard et à consommer des stupéfiants avec ses amis. Découragé, ses parents décident de partir tout l'été à la campagne afin que leur fils puisse rattraper son retard scolaire et ainsi terminer son secondaire. Loin de tout, Miron s'ennuie. Jusqu'au jour où il rencontre Florence, une voisine de 73 ans, qui fête le premier anniversaire de la mort de son mari. Ensemble, ils peuvent se confier, philosopher sur la vie et s'amuser. Jusqu'au jour où une idylle se développe, ce qui a tôt fait de bouleverser leur entourage.
C'est normal.
Avant d'aller plus loin, on va aller entendre la bande annonce.
Demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire à longueur de journée, ces deux-là.
Tu me fais sentir jeune, belle, désirable.
Bon, il s'est fait des nouvelles blondes.
Je veux pas sauter aux conclusions, mais j'ai vu Miron puis Florence se tenir par la main au petit restaurant.
Bon, là, je t'aime.
Miron! Miron, viens ici, là!
Encore une fois.
J'avoue que c'est perturbant, ce qu'on vient de voir.
À la loge de ma mère.
Je m'excuse, là, mais on veut que vous cessiez de vous voir.
Regarde, ça marche entre nous deux. Y a rien d'autre à analyser.
On veut pas que ça continue.
Je savais pas raison à quel point la bande-annonce était dramatique. Est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer la critique commune?
Ça me dérange pas, moi, comme vous voulez.
Vas-y, Jim.
Bon. Écoute, j'ai fait une courte recherche sur Araball. J'ai réalisé d'abord que c'était un homme. C'est une première réalisation.
Ah oui, c'est un nom que je me serais attendu aussi à être
Ouais, c'est un nom, Ara, en tout cas. Mais non, cinéaste masculin, très connu pour ses courts-métrages provocateurs, mais c'est son premier long-métrage. Refonte, en fait, du film Harold et Maude de Al Ashby, mais en beaucoup moins dramatique. Une idée ambitieuse de faire ça au Québec, j'avoue. C'est même plutôt intéressant. D'entrée de jeu, est-ce qu'on peut arrêter d'appeler les gens Miron, Gaston Miron, faire des références à Gaston Miron dans les films québécois en 2018? Ça serait bien.
Quand l'amour de... que la chute de Sparte également faisait des références.
Une surdose de Mironité, là. Oui, voilà.
Donc, frappante.
C'est ça. Bon, écoutez, personnage de Miron... est quand même intéressant, un petit peu déconnecté de la réalité d'un adolescent là, qu'on connaît. Grande sensibilité, ouverture d'esprit, peut-être pour son âge un peu inhabituel. On pourrait reprocher peut-être un manque de crédibilité là, au niveau de la construction du personnage, mais personnellement, je me suis quand même pas mal reconnu. J'étais un peu comme ça quand j'étais jeune. Je sais pas pour toi, Louis ou Mélina, mais en tout cas,
tu vas
sûrement t'en venir là-dessus. Ouais, c'est ça. Bref, contrairement à Julie Le Breton, qui comme d'habitude est vraiment trop théâtrale et absolument pas écoutable, Patrice Robitaille brille, mais surtout France Castel. Mm-hmm. Oh, yoyoyoyoy. Quelle actrice. C'est incroyable.
C'est une femme extraordinaire.
C'est incroyablement crédible et parfait. On y croit totalement. Première fois de l'année que je pense à ce point-là qu'un acteur mérite un Oscar pour son jeu. Franchement, je suis encore ému par son jeu.
Ça, c'est
juste
jeu. Parce que le problème d'infiltration, c'était 2017.
Oui, non, j'ai jamais dit que j'appréciais pas la performance de Christian Bégin dans le problème d'infiltration, mais on est pas en 2017, hein. Vis dans le présent un peu, Louis, arrête de vivre dans le passé. Autre point très très fort du film, la musique. Oui. Extraordinaire. Le choix musical du film est exceptionnel et la bande sonore, à ma connaissance, a été faite par Robert Neller, qui incarne le personnage de Miron, donc c'est quand même bien aussi. On le voit comme introspectif dans le film et tout ça. J'ai vraiment apprécié. Puis je dirais que je donne un 8 sur 10 à ce film-là, parce que c'est très ambitieux, mais il est très influencé aussi par un film, donc voilà, il y a un petit côté peut-être... bon.
Stiff.
Ben, je veux pas dire le mot remake, mais ça frôle, voilà.
Je vais prendre la suite des choses, parce qu'il y a deux choses que tu as dit qui m'ont beaucoup interpellé. Tu parles de moi qui vis dans le passé, alors...
Tu parlais d'un film de 2017.
On vient de voir un film qui se passe entièrement dans les années 90.
Oui.
Et c'est très apparent. Là. Les références sont toujours très présentes. Les bands du jour, c'est Nirvana, c'est le grunge. Le punk, à la limite, est très là. C'est beaucoup la génération X, le désir de no future, de pas comprendre ce qui se passe. L'autre chose que j'ai à dire, c'est effectivement, après avoir émis une critique cinglante des adolescents dans la chute de Sparte, ici, au contraire, j'ai cru en les adolescents. Je pense que Miron, malgré son nom un peu dithyrambique, c'est effectivement C'est un adolescent crédible. C'est quelqu'un que je verrais, que j'ai connu dans mon école secondaire, ou à tout le moins un composite de gens que j'ai connus dans mon école secondaire. C'est un adolescent, oui, déprimé, oui, introspectif, mais très représentatif d'une génération qui était persuadée qu'il n'y avait plus rien après eux. Une génération qui a connu la première guerre d'Afghanistan, qui a vu les bombes tomber pour la première fois. Une génération pour qui Nirvana, Smells Like a Teen Spirit, est une chanson thème, est un moment fort de la génération. Donc oui, oui, j'y crois. Également, je ne peux que répéter là, Patrice Robitaille, Mon bon Amour, oui. France Castel, extraordinaire. Robert Naylor, très bon aussi, là, je veux dire, j'ai cru. J'avais un peu envie de chopper sa coupe de cheveux à mi-chemin du film.
Ça oui, ça c'était désagréable.
Mais bon, en même temps, je pense que ça faisait partie de la volonté de rébellion du personnage de tout. Effectivement, moi j'ai beaucoup aimé que le film soit à propos du désir. Il y a beaucoup qui se fait autour de ça, que ce soit une femme plus âgée, que ce soit un couple dans la quarantaine, que ce soit un jeune, parce que ça commence aussi avec son histoire d'amour avec la jeune Sophie qui se termine de manière plutôt dramatique d'une crème glacée garochée. Mais c'est un film que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. C'était très représentatif.
Il y a même un espèce de flashback de la boule de crème glacée qui tombe.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est assez cauchemar.
Oui,
oui. Oui,
c'est ça.
Mais oui, puis je pense que c'était très fort comme ça. C'était un peu banal, puis c'est quelque chose qu'on pourrait tous vivre, mais dans un contexte d'un film, puis présenté comme ça l'était. Le seul problème que j'ai eu vraiment avec le film, c'est que j'étais, oh mon Dieu, pas la clientèle cible. C'est-à-dire que je peux pas me reconnaître dans Miron parce que je suis rendu plus loin. Je peux pas me reconnaître dans France Castel parce que je suis pas rendu là. Je suis comme dans l'entre-deux plate où est-ce que je vois pas où me situer dans le film. Mais en même temps, je comprends la force des émotions qui se passent là-dedans. Après avoir vu des entrevues avec Madame Castel où elle expliquait un peu le retour du désir après un certain âge, après être veuve pendant un certain temps. J'ai beaucoup aimé les références aussi à un autre film extraordinaire des années 90, Shawshank Redemption. Bref, un film qui m'a forcé à réfléchir sur plusieurs niveaux. Un film qui présente des concepts de manière intéressante, approchable, tout en se donnant assez de profondeur pour qu'on y croit. Que ce soit au niveau du désir, au niveau de l'amour, au niveau de la vision de la vie, que ce soit le présent versus se planifier, toute l'espèce d'idée qui doit finir son secondaire absolument. J'enlève des points pour la fin. Vraiment, le dernier 5 minutes du film m'a déçu. Je pense qu'on allait dans une direction qui était un peu dérangeante. J'enlève des points parce que j'étais pas la clientèle cible. J'en enlève pas trop parce que j'ai des gens dans mon entourage qui vont beaucoup apprécier ce film-là. Donc, je donne un solide 8.5 sur 10 à « Quand l'amour se creuse un trou ».
Merveilleux.
J'enlève pas tant de points que ça, finalement.
Ben non, il y a une meilleure note que moi.
J'ai vraiment aimé ce film-là. Je pense que je le recommande à beaucoup de gens, c'est juste que c'est pas tout le monde qui va vouloir se donner la peine. Sans être la clientèle cible, c'est dur de vouloir se donner la peine de passer au travers ce film-là. Parce que faut que tu penses par-dessus le « je m'identifie pas nulle part, mais j'ai quand même envie d'identifier les thèmes du film ». Puis c'est pour ça que j'y ai pas donné un... Avoir été plus adapté, j'aurais peut-être donné un 9. J'ai vraiment aimé ce film-là, je trouvais qu'il était vraiment beau.
Mina?
Oui, ben moi, en fait, j'ai absolument détesté le film.
Pour vrai?
Non, c'est pas vrai. C'était juste parce que...
Ça aurait été malade, j'aurais vraiment aimé ça.
Ça aurait été jamais vu.
Oui, ça, pour poursuivre la tradition de Cinébrunch, non, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Un point que peut-être vous avez moins discuté, le choc des générations, j'ai beaucoup aimé voir ça. Faut dire que les 10 premières minutes, j'étais pas sûre de ce dans quoi on s'embarquait. J'avais de la misère à rentrer dedans. Mais un coup que le film est parti, j'ai absolument aimé ça. Mais il faut dire que les comédies noires, un peu, c'est vraiment mon genre de film. Quand on va un peu dans l'absurdité, ceux qui me connaissent savent que j'ai un petit penchant pour ça. Donc, j'étais vraiment complètement vendue au genre de film. Et effectivement, j'ai pas trouvé que Julie Le Breton surjouait nécessairement. Mais bon, je...
Ah, mais tant mieux pour toi. Moi, quand tu t'en rends compte, c'est sûr que c'est le pire. Mais ouais.
Non, c'est ça. J'ai vraiment aimé. Je recommande aussi ce film-là à tous. Et effectivement, France Castel, quelle femme. Juste parfait, une interprétation parfaite. Le jeune Miron, des fois, on sentait qu'il était un petit peu à côté, mais
c'est un jeune acteur.
Ben, c'est
C'est correct, mais je pense que c'est peut-être ça. C'est que ça détonnait un peu à côté de France Castel, tellement France Castel était d'une crédibilité incroyable. Femme d'expérience, évidemment. dans tous les sens dans ce cas-ci. Mais oui, définitivement.
Vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi le choc des générations, là, l'espèce de concept que sur les trois générations, la première et la troisième se retrouvent sur beaucoup d'aspects alors que la deuxième est complètement en réaction contre les deux autres. Là. Ça, c'est très intéressant aussi.
Oui, vraiment intéressant. Puis tu lui donnais combien? Je suis curieux.
J'ai donné un 8 sur 10.
Fait que Louis a donné la meilleure note des trois. Mais moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous avez trouvé ça malaisant? Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a quelques scènes intimes entre les deux personnes d'un âge significativement différent. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a rendu mal à l'aise de voir ça? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a dérangé là-dedans?
Absolument pas. Par contre, je dois admettre qu'il y a une scène en particulier où il n'y a que Madame Castel j'ai trouvé, mais en même temps, c'est ça que je voulais dire parce que ça m'a fait penser à plusieurs niveaux. C'est, je suis sorti du cinéma, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce que cette scène-là m'avait dérangé.
Oui.
Puis c'était, je pense que oui. Je pense que les scènes en tant que telles, printemps-automne, ne m'ont pas dérangé tant que ça, mais la scène où elle est seule m'a vraiment plus travaillé.
Okay.
Parce que, surtout qu'il y avait beaucoup de close-up sur son visage. D'ailleurs, excellent travail de close-up dans ce film-là tout le long.
Oui.
Beaucoup de moments très centrés sur les personnages. Mais celui-là particulièrement, ça m'a pris un moment pour me replacer puis savoir où est-ce que je me sentais à propos de ça. Là. Ouais. Oui, je...
Une petite envie de détourner le regard occasionnellement.
j'ai peut-être cédé à la tentation pendant un instant avant de me dire non, je dois.
Oui, oui.
Mm-hmm. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, Louis. Moi aussi, des petits moments de malaise. Surtout la première fois confrontée à ça parce que c'est très rare qu'on va porter ça à l'écran de cette façon-là. Mais à un moment donné, j'ai fini en tout cas par accepter ça et à vraiment rentrer dedans. Mais,
ce qui était l'objectif de la scène.
C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment intéressant parce que, justement, la question de pourquoi ça me provoque autant de malaise, justement, on est... Il y a une espèce...
Mais il y a un tabou avec ça.
Ben,
là.
Exactement.
Ça révèle un tabou, là.
Oui, puis même chez des plus jeunes, s'imaginer que nos parents ont eu des relations sexuelles pour nous concevoir, ça rend plusieurs personnes mal à l'aise.
C'est faux.
Ben, moi, personnellement, c'est le Saint-Esprit, là. Je sais pas pour vous.
La cigogne.
Les abeilles.
Les feuilles de chou.
Bon, voilà. Ça rend déjà plusieurs personnes mal à l'aise. Donc, quand on projette encore plus loin... cette réalité-là, ça crée un malaise, mais des fois, c'est ça le but du cinéma, puis dans ce cas-là, je pense que ça sert très bien.
Ça sert
bien,
oui.
Définitivement.
Oui.
Donc, un film qu'on recommande beaucoup cet été, mais qui nécessite un peu plus de brain power que ce que Les Incroyables, par exemple.
et contrairement à toi, Louis, je viens de me souvenir que tu as dit que tu as été déçu de la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin.
Ah, le dernier 5 minutes?
Ah, ouais, mais ça, c'est mon petit côté un peu qui aime les trucs un peu absurdes, mais oui.
Moi, j'ai aimé les dernières 5 minutes, mais j'ai pas aimé la dernière minute et demie. Fait que
c'est vraiment
la vraie fin avant le générique.
C'est les deux dernières répliques. Les deux dernières répliques, j'ai fait « Ah! »
OK.
Tout ça pour ça.
OK, les répliques dans l'autre...
Ouais, exactement.
OK, c'est... ouais, effectivement. Ben, c'est ça. C'est la fin, là.
Mais c'est ça. C'est de voir, après ça, nos préférences. J'avais une fin imaginée qui ne s'est pas passée. Je pense que Mélina, elle avait pas de fin imaginée, puis elle a eu du fun. Ouais.
Moi, j'aurais pas détesté une petite scène de drone qui monte puis qui s'en va vers l'horizon. Ça aurait suffi à bien finir ce film-là dans ce cas-ci, je pense.
Ouais, mais au Québec, on n'a pas ça du budget pour des drones.
Bref, voilà.
Excellent. Merci à tous. C'est donc tout pour cette émission de Cinébrunch. Ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie extraordinaire, chers Popcorners et Popcorners.
On va partir de notre propre secte.
Je pensais qu'on allait partir de notre propre compagnie de popcorn alternatif.
Oui, mais...
Vegan, sans gluten, avec du brocoli.
Moi, j'aimerais juste revenir parce qu'en début d'émission, Louis t'a dit l'émission qui n'a pas peur de partager son popcorn, mais je pense qu'on peut tous avouer qu'on a tous un peu peur de partager notre popcorn.
Pour ma part,
j'aime bien mettre des M&M au chocolat dedans qui fondent un peu.
Ça sonne absolument horrible.
Louis, toi-même, disait que même en bonne compagnie, tu prends ton propre popcorn.
En fait, c'était un petit moment de confession. Un des mini-conflits avec mon ex où est-ce que je refusais de partager mon popcorn avant un film. Mais...
C'est sacré, le popcorn chez Louis.
J'aimerais ici faire la distinction entre mes prises de position personnelles et celles de l'émission. Je pense que Cinébrunch, en tant qu'émission de service public et de partage à la nation de biens et services, se doit que de partager son popcorn. On l'a d'ailleurs fait avec des tentatives de tests de différents goûts de popcorn.
Oui.
Mais, donc... l'émission Partage son popcorn, Louis garde le sien.
Moi aussi, voilà. En fait. On peut-tu se dire, il y a deux personnes de type au cinéma avec leur popcorn. Il y a ceux qui, dès qu'ils rentrent dans la salle, mangent tout le popcorn et il n'en reste plus pendant le film. Et il y a d'autres personnes qui attendent que le film commence. Et ça crée ça aussi des conflits parce que moi, j'aime préférer attendre que le film commence. Mais si je suis avec quelqu'un qui commence à manger le popcorn dès qu'il rentre dans la salle, il ne reste plus de beurre sur le dit popcorn. Donc, voilà. Mais j'ai vu une stratégie pour ça dans les internets que je veux juste vous partager. C'est ma dernière intervention. Il y a quelqu'un qui, vous savez, dans certains cinémas, on peut mettre nous-mêmes le beurre sur le popcorn, qui prend une paille et qui met la paille dans le sac de popcorn et donc qui fait passer le beurre à travers la paille. Donc, ça fait en sorte que le beurre
arrive plus profondément.
Arrive plus profond et tu peux ainsi y aller avec différents niveaux pour ta paille pour que le beurre se retrouve même sur le maïs qui est dans le fond du sac. Donc voilà, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Merci.
Ça donne des idées.
Je écoute, pour une émission de service, je pense qu'on devait se parler de cet extraordinaire. Donc, paille, beurre. Également, dans certains cinémas, c'est des assaisonnements qui ont de la margarine. Ça goûte la même chose. Mais moi, je suis beaucoup en faveur de manger son popcorn avant que le film commence parce qu'il est encore chaud.
Ah bon, mais je pensais que t'attendais que...
Je suis un peu... Je change des fois.
Moi, c'est une question de bruit, hein, pour clore sur le sujet. Moi, je mange mon popcorn pendant les bandes-annonces pour être certain d'avoir presque pu en manger pendant le film pour pas m'empêcher d'être concentré.
Rapide anecdote, lors du film A Quiet Place, un endroit silencieux, de manger du popcorn, c'était un challenge!
Mais oui, c'est ça! T'attends qu'il y ait des gros bruits pour...
Puis il y en a pas. C'était...
Ah, effectivement. Ah, bon Dieu. Quel intérêt.
Excellent. Ben, bon, bref. Bonne semaine à tous et à toutes.
Bonne semaine.